France Bleu RCFM. France
Bleu. Yeah.
How?
How qui?
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Toc Toc.
RCFM, 17h-18h.
Toc Toc.
Bonjour à tous, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Toc Toc. À mes côtés ce soir, le grand Michael Andréagne. Bonsoir Michael.
Bonsoir.
Comment ça va?
Hi everybody.
Hi everybody. Alors, elle est productrice artistique depuis 1996, ça fait un pet, sous la télévision corse. Elle est de Balagne et de Bastia. Elle est née le 25 avril 1970.
Ça aussi, ça fait un pet.
Ça fait un pet également. Elle est donc du signe du taureau. Emmanuel Léopoldi sera au centre aujourd'hui de cet exercice narcissique mais néanmoins déplaisant. Bonsoir, bonjour Emmanuel.
Bonjour, bonsoir, comme vous voulez, David.
Et bon anniversaire.
Et merci.
Merci d'avoir accepté cette invitation en ce 25 avril. À mes côtés ce soir, je le dis à Michael Andréagne, donc pour mener cette interview, essayer de mieux vous connaître, Emmanuel Léopoldi. Il y a Simon Guérini qui réalise si bien cette émission, ça se sent dans la touch. Les auditeurs auront reconnu votre touche. Donc Simon Guérini, Emmanuel Léopoldi, c'est donc votre anniversaire. Est-ce que pour vous, c'est un jour comme un autre, c'est un jour un peu spécial, une date que vous affectionnez ou voire vous aimez pas trop?
Je serais tentée de dire que je m'en fiche un peu et qu'on a quelque part un petit peu la chance de pouvoir continuer de les fêter. Alors ça, c'est mon côté un peu pessimiste qui parle. Mais non, finalement, c'est optimiste. Voilà, j'ai 49 ans aujourd'hui, j'ai pas honte de le dire et voilà, on a la chance d'être ensemble.
Est-ce que ça passe vite? Voilà, depuis 1996, on connaît votre visage hein, puisque vous êtes animatrice, productrice artistique pour France 3 Corse via ST. Là, donc, vous avez rejoint un petit peu les débuts hein, de la télévision
ouais,
corse.
Ouais.
Ça passe vite, 1996-2019
Ça passe vite à partir du moment où on a des enfants, en tout cas en ce qui me concerne. Voilà. On a l'impression que voilà, tout roule, puis il y a une accélération parce qu'on a une espèce de projection face à nous qu'on n'a pas avant. Oui, depuis les enfants, donc pour moi depuis 2004.
Depuis 2004, pour le premier. Vous êtes maman d'ado, de deux garçons,
voilà.
Deux ados.
Oui, 2004 pour le premier, Andri, qui a eu 15 ans, là, qui est aussi une petite bête à cornes, justement, un petit bélier. Et puis Antomari, qui vient d'avoir 12 ans en janvier.
Ok, voilà. on les embrasse.
Oui, on les embrasse.
Alors, on a un petit peu, avec Michael Andréagne, on a un petit peu envie de connaître votre enfance, de savoir de quel endroit vous venez, quelle éducation avez-vous eue. Alors, je le disais à l'orée de cette émission, en présentation, vous êtes originaire de Bastia, mais vous avez grandi en Balagne, à Île-Rousse, exactement.
Ouais.
Un papa médecin.
Un papa médecin, toujours médecin.
Toujours médecin.
Une maman qui a veillé au bien-être de ses enfants. J'ai un frère qui a 10 ans de plus que moi, alors on a été un petit peu deux enfants uniques dans la même maison. Mais oui, maman s'est beaucoup consacrée à notre éducation. Je pense que, ouais, pas fait. Le job a été bien fait, il me semble.
Quel genre d'enfance avez-vous eu? Une enfance insouciante?
Ouais, insouciante, plutôt dorée, ouais. Oui. On faisait du sport, on sortait, on allait beaucoup au resto. Mes parents sortaient beaucoup quand j'étais petite et j'allais tout le temps avec eux partout. Non, vraiment bien, quoi. Ouais, bien.
Des grands-parents?
Des grands-parents, très aimants, des deux côtés. Des grands-parents paternels à Herbalongue, où j'ai beaucoup de souvenirs d'enfance, dans une superbe maison. Et puis des grands-parents maternels bastiais. Très très aimant, pas très bavard en ce qui concernait mon grand-père maternel, mais voilà, l'amour se sentait dans les gestes et dans les regards. On n'était pas câlins, on faisait pas énormément de bisous avec mon grand-père, mais voilà, on avait des codes tous les deux. Tiens, c'est bizarre que vous me parliez de ça, j'y pensais il y a pas longtemps, en plus à mon grand-père. Et voilà, non mais vraiment bien entouré, choyé, une famille, des oncles, des tantes, des cousines, des cousins, une belle enfance quoi.
Alors, quel élève étiez-vous? Une élève assidue ou non? Voilà, un peu en dilettante.
Ouais, un peu en dilettante.
Quelle scolarité?
Une scolarité assez basique. Hein, je me contentais de ramener des notes qui ne me feraient pas punir. Non, j'étais pas une grosse laborieuse. Ouais, non, je regrette aujourd'hui hein, de ne pas avoir mis un coup de collier un peu plus important à un moment donné. Mais j'avais envie de m'amuser. Je faisais beaucoup de tennis à l'époque. Enfant, et voilà, c'est ce qui prenait un peu le pas sur le reste, donc voilà,
Donc vous décrochez votre bac.
Alors on continue. Donc oui, j'ai mon bac. Je redouble la seconde quand même.
Oui, Emmanuel,
parce que je quitte Île-Rousse et je vais une année chez mes grands-parents pour la seconde, puisqu'à l'époque il n'y avait pas de lycée en Balagne. Donc je fais une seconde au Fang, et puis j'abuse un peu de la confiance de mes grands-parents. Et tous les mercredis après-midi, je suis...
Vous faisiez quoi le mercredi après-midi?
J'allais en boîte.
Sur la place Saint-Nicolas?
Sous la place Saint-Nicolas, voilà. Et non, c'était un peu la liberté, quoi, puisque j'avais plus mes parents... sur le dos, entre guillemets. Hein. J'ai redoublé ma seconde, mais j'avais un an d'avance, donc je ne me suis pas trop inquiétée. Je suis retombée sur mes pattes. J'ai eu mon bac en 88, un bac littéraire à deux à l'époque. Et puis là, un peu de doute. Qu'est-ce que je fais? Alors, je tombe par hasard sur le concours d'assistante sociale à Nice. Je le passe, là aussi, en dilettante. Ça fait un peu prétentieux, mais bon, voilà.
Pas hyper impliqué dans le concours.
Mais je pense que déjà, mon empathie que vous connaissez,
parce que vous êtes ma psy, on peut le dire, ma psy dans la vie, voilà.
petite parenthèse perso. Et donc, j'ai ce concours d'assistante sociale, et en fait, là, je me retrouve, donc je fais cette école à Nice, une première année, puis je me retrouve à faire un stage que je pouvais choisir, et je choisis de le faire à l'hôpital de Bastia. Avec une assistante sociale, Marie-Théo Taviani, dont je me rappelle très bien. Et puis là, je suis confrontée à la vraie vie. Fini le monde des bisounours, je vois des gens malades, et dans la merde, vraiment, mais à des stades que je ne soupçonnais pas chez nous. Donc là, on est en 89, j'ai 19 ans, je sors de ma petite période dorée, géniale, tout est beau, tout est... voilà. Et je découvre un monde un peu dur, que j'ignorais. Je me prends une claque, un petit peu quand même. Donc le jour de valider mon année, il y a un grand jury, comme ça, et puis moi j'y vais et je dis, voilà, écoutez, je me sens pas suffisamment armée pour aider ces gens.
Les épaules, voilà, pour affronter
Non, j'ai pas les épaules assez larges. J'ai vu des enfants battus, des juges pour enfants enfoncés dans leur fauteuil en cuir avec un cigare qui renvoyait les enfants dans leur famille parce que la couleur ne leur convenait pas, ou en tout cas, ça valait pas la peine qu'on s'y attarde trop parce que c'était comme ça chez eux. C'était leurs us et coutumes. Voilà, plein de choses qui m'ont vraiment choquée à l'époque. Donc, je décide d'arrêter, je monte à Corté, je fais une licence de langues étrangères appliquées. Et puis, je me dis, je vais faire l'école d'instit. Là, je me heurte au monde des parents quand je suis en stage. Pas trop le monde des enfants, parce qu'il me plaisait bien les enfants, mais le monde des parents, c'est un monde merveilleux. Voilà. Donc, quand moi-même j'ai tendance peut-être à être un peu insistante avec mes enfants ou me dire, ah, je vais aller voir la prof, je me dis, arrête. Non, n'oublie jamais que c'est juste contre-productif. Voilà. Donc, ça aussi, je fais deux premières années, non, sans succès, et puis le hasard me conduit sur la route ajaxienne. Et on y vient tout à l'heure
On y vient tout à l'heure, bien sûr. Moi, je voulais savoir, alors avec Mika, on a pensé à un petit extrait, une bande-annonce de film. Je voudrais vous la faire écouter. C'est la bande-annonce du film Première année, et après, je vous pose ma question.
C'est une année difficile. Pour ceux qui n'ont pas eu de mention au bac S, vos chances sont de 2%.
Tu connais la différence entre un étudiant en médecine et un étudiant en prépa? Demandeur d'apprendre le bottin par cœur. L'étudiant en prépa, il te demandera pourquoi. Et l'étudiant en médecine, pour quand?
On commence le matin par une matière difficile, puis pause déj, 40 minutes. Une matière facile l'après-midi jusqu'à 17h. Pause goûter, 20 minutes. On enchaîne avec 2 heures d'une matière difficile. Et le soir, on fait des annales jusqu'à ce qu'on soit cuit. À ce rythme-là, c'est jouable.
T'en dis quoi?
Vous avez 15 jours pour tout donner, 15 jours pour tout revoir.
C'est à carreau, plus âge de vie.
Le mieux, c'est de faire des annales, franchement.
Faut qu'on devienne des machines à répondre aux questions.
Et la fac, ça va?
La phosphoglucomutase.
Non, mais sérieux?
3 heures pour répondre à 72 questions avec 5 réponses au choix. Ça fait environ 2 minutes par question. Donc à ce rythme-là, c'est impossible de réfléchir, soit on répond par réflexe reptilien, soit au hasard. Donc je pense que les meilleurs, enfin ceux qui deviendront médecins, se rapprochent plus du reptile que de l'être humain.
Je veux être médecin. On s'inquiète pour toi.
Il a complètement pété un plomb.
Bah carrément.
Ça fait une place en plus. C'est moche, mais c'est vrai.
Il faut
seul, j'y arriverai pas. Mais avec toi, c'est jouable.
T'as pris trop de retard, hein, c'est mort.
Vous pouvez prendre votre ressort au sujet de ça.
Attends, j'en veux plus, là, j'en ai marre. On fait une pause?
Ouais, carrément.
Pause maths? Allez, dérivé, stats, intégrale.
Et c'était la bande-annonce du film Première année, une très bonne comédie française. Alors, moi, la question que j'ai envie de vous poser, parce que voilà, on se fréquente, hein. On se fréquente à France 3, si c'était à refaire.
Ça, c'est ma question.
Hein, si bon, c'était à refaire.
Vous n'arrêtez pas de me piquer mes questions.
Si c'était à refaire, vous feriez médecine.
Oui, oui. Ou quelque chose qui s'y approche, en tout cas. Ça me...
Vous êtes médecin.
Je suis même médecin si de l'âme.
Ouais, même
de l'âme.
Si, non, mais même si vous n'avez pas fait. Le fait d'avoir eu un permis de simple, voilà, ça fait votre culture médicale. Mais vous auriez dû être médecin, Emmanuel.
Ça, c'est vous qui le dites. Ouais. C'est mon grand regret, ça c'est évident, ça c'est évident.
Mais vous savez que maintenant, avec cette réforme du numerus clausus, il va peut-être y avoir les trois premières années de médecine accordées, donc peut-être que vous pourriez tenter.
Alors,
ce serait pensable ou pas?
Non, pas du tout, parce que j'ai plus du tout la capacité de rester assise comme ça, à ingurgiter des cours, et puis je suis très très, très nulle en maths, en physique et tout ça.
Non, mais le programme va changer, hein.
Ouais. Non, mais pas suffisamment pour. Non, il va. Mais je me renseigne pour mon fils, donc faites-moi confiance, Dave. Non, je n'ai pas les capacités d'être médecin, même pas maintenant. Mais en tout cas, oui, non. C'est dramatique, là, parce que, en fait, c'est une comédie, mais pas que. Parce que lorsqu'il dit. Pardon, je mets les coups dans les câble. Lorsqu'il dit le reptilien, tout ça, mais...
C'est l'enfer de la première année
de
médecine.
C'est l'enfer de la première année de médecine, mais heureusement que cette réforme va un peu changer des choses, puisque je crois que l'empathie va faire aussi partie des sujets d'entretien, et qui vont... Enfin, des médecins auront aussi un peu de psychologie.
Ouais, c'est pas parce qu'on est bon en maths qu'on sera un bon médecin.
Ah non, absolument pas, quoi.
C'est pour ça qu'ils vont essayer de diversifier un petit peu les profils, et voilà, peut-être que Mika aussi partira à Corté se former,
ouais, peut-être.
Pas assez bon en maths et en physique non plus.
Docteur Andréa.
En fait, on finit devant des micros, derrière des micros, c'est pas pour rien. Là, c'est parce qu'on
n'est pas bon en maths.
Ce n'est pas faux, Emmanuel. Michael, Andréani, vous avez sélectionné un extrait d'Agristhale.
Ah oui, Agristhale.
Mais qu'est-ce qu'Agristhale?
Je me demande.
Je pense quand même que les auditeurs le connaissent, parce que c'est le tout nouveau magazine que vous proposez, notamment Emmanuel, depuis la rentrée 2018 sur Viasté. Là, c'est diffusé tous les samedis à 12h05. On découvre finalement le parcours de vie d'agriculteurs, leur motivation entre tradition et modernité. On a un petit extrait, c'est celui du tout premier numéro, donc qui est passé en septembre dernier. C'est José Vanucci qui parle, elle est vigneronne. On écoute.
Là, tiens, au bio, c'est la rose, viens voir. Ça, c'est quoi?
Là, c'est la tchindérine.
Ah, tchindérine. Là, tu vois que c'est séché, mais là tu vois...
Louis-Diam.
Voilà, là. J'ai poussé au milieu de ces vignes. C'est-à-dire que je suis une variété endémique, comme ces cèpes de vigne. Et c'est mon père qui a mis en place ce vignoble. Déjà, mes grands-parents, nous, on est originaire du Bozio, avaient des vignes ici, mais c'était des bergers. Papa a développé le vignoble, mais il a porté en coopérative. Et puis ensuite, c'est avec mon mari qu'on a décidé de développer, de créer notre structure de vinification, de faire nos vins. C'est un métier qui demande des sacrifices, oui, bien sûr. Mais comme tous les métiers de la terre, les vrais métiers de la terre. Mais moi, je suis une paysanne, je le revendique. Voilà. Je ne suis pas dans un déni de ruralité, comme malheureusement on peut l'être parfois en Corse.
Cette dernière réflexion, elle est intéressante quand même.
Oui, elle est intéressante parce qu'il y a un changement dans les mentalités. Et José, elle en est l'exemple flagrant. Il y a une génération qui a tout fait pour se sortir de l'agriculture. Et maintenant, il y a celle qui arrive, qui lâche des métiers... dit confortable dans l'enseignement ou des là encore pas plus tard qu'hier voilà la sœur de la personne chez qui je suis allée tourner à Devaco est aide-soignante mais lâche tout pour rejoindre l'exploitation familiale. Donc il y a un changement de mentalité et c'est très bien. Moi je déjà ça me fait beaucoup de clientes entre guillemets. Voilà, l'émission n'est pas prête de s'arrêter tout de suite. Non mais c'est encourageant je trouve puisque on va revenir en tout cas ce serait bien qu'on revienne vraiment à des productions réelles déjà, des productions de qualité, on a tout pour tout faire ici. Avant, toutes les terres étaient cultivées. Aujourd'hui, il y a des endroits qui sont vraiment des zones inaccessibles parce que laissées à l'abandon par cette génération d'avant qui a dit « Ouh là là, bâche. L'agriculture, on ne veut plus en entendre parler ». Et voilà, et aujourd'hui, il y a un renouveau, c'est très bien. Moi, je trouve ça super.
Vous avez parlé de produit, là, c'est aussi un produit télévisuel. Comment est-ce qu'il naît ce concept? Comment l'idée émerge?
L'idée émerge un jour où je me dis qu'est-ce qu'il n'y a pas là sur bien sûr on traitait déjà enfin l'agriculture était déjà traitée par le journal télévisé, quelquefois on a des portraits d'agriculteurs tout ça, mais j'avais envie de montrer, alors bien souvent on traite de polémiques dans le journal télévisé. Et puis moi, je me suis dit, mince, il n'y a pas de portrait vraiment de gens passionnés. Alors on fait des passionnés de tout et on ne fait pas des passionnés de notre terre. Et donc voilà, on a proposé cette petite fenêtre agricole et qui a été acceptée par les directeurs des antennes. Et voilà, et c'est parti. J'ai contacté une boîte de production avec laquelle je fais plusieurs choses déjà. Et puis on a écrit quelque chose qui aujourd'hui est agristé là.
Ça peut d'ailleurs paraître paradoxal, mais on a l'impression aussi que ce programme, ça permet de nous rapprocher davantage de ce qui fait notre essentiel et puis d'humaniser un peu plus encore ces agriculteurs.
Ouais, les humaniser, surtout les mettre en valeur parce que finalement, on en entendait presque parler que lorsqu'il y avait un problème. On ne parle d'agriculteurs que lorsqu'on parle de fraude, lorsqu'on parle de primes, lorsqu'on parle d'élections à la Chambre. Il n'y a pas que ça. Derrière, il y a des gens qui produisent, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui vivent de leur terre et qui mettent en valeur. Ces gens-là sont une vitrine aussi de notre île, même si on n'a pas besoin, on n'est pas là pour être vendu. Mais je veux dire par là que ça fait partie des choses positives, je trouve aujourd'hui cette agriculture-là. Et en tout cas, c'est ce que nous, avec l'équipe, on essaye de mettre en avant.
Est-ce que c'est une profession, Emmanuel, qui se féminise aujourd'hui, comme on a pu l'entendre dans l'extrait de Michael?
J'en trouve de plus en plus qui s'installent, qui n'ont plus peur. Alors certaines, et puis aussi le matériel évolue, donc on a des outils. Elles ont, parce que moi j'ai rien du tout, mais elles ont déjà beaucoup de courage.
C'est l'empathie d'Emmanuel, c'est ça. Hein, un gros transfert, voilà.
Nous sommes elles. Qu'est-ce qu'on disait? Oui, voilà, le matériel évolue, et puis. J'ai envie de vous dire que les femmes sont des hommes comme les autres. Quoi.
Est-ce que vous pourriez, comme ces personnes, hein, ces agriculteurs, voilà, laisser votre job pour tenter une autre aventure?
N'importe laquelle ou celle de l'agriculture?
N'importe laquelle.
Oula, je crois pas. Non, parce qu'on fait quand même un job intéressant, quoi. Et lorsque je leur pose la question, je leur dis à mes agriculteurs et agricultrices.
Mes agriculteurs.
Ouais. Ouais, mais parce qu'on a un petit réseau maintenant, c'est assez rigolo. Et je leur dis, mais qu'est-ce que je sais plus, Davia, de quoi vous me parlez là?
L'histoire de changer de job.
Ah oui, de changer. Je leur dis, mais vous, aucun regret, non, mais aucun, quoi. Aucun ne regrette son choix. C'est. Et puis alors, bon, on est à la radio, on peut pas voir, mais souvent, quand ils me parlent de ça, leurs mains se portent sur leur cœur et ils tapent sur leur poitrine en disant « Non, non, je l'ai là, c'est viscéral pour eux, quoi. Non, moi, je le ferai pas, ça. » Non, et puis c'est un métier difficile, quoi. C'est un métier difficile. Franchement, je les admire, quoi.
Beaucoup de pénibilité, effectivement. Et c'est d'ailleurs un paradoxe qu'aujourd'hui, on revient à ce modèle-là du côté des jeunes, alors que, effectivement, nos parents qui, pour certains, faisaient ce métier-là, nous disaient, justement, je veux que tu suives une autre voie que la mienne, je veux bien que tu apprennes à l'école pour pas vivre ce que je vis moi, et que aies, justement, une existence un peu plus paisible, quoi.
Mais c'est vrai qu'il y a, dans l'agriculture, comme disait Manu, il y a ce côté un peu sexy. Voilà, c'est sexy aujourd'hui de faire de l'huile d'olive, alors qu'avant, voilà,
il y a un côté un peu glamour, quoi.
Complètement. Il y a 50 ans, c'était pas forcément le cas.
Non, mais parce qu'aussi, on a des nouveaux outils, des nouveaux moyens de communication. On a, les jeunes qui reviennent, enfin, qui sont là maintenant, qui prennent les rênes, insistent un peu sur le packaging, sur le tout ça. Enfin, ça redonne un petit peu, oui, en effet, une vous disiez tout à l'heure, Michael, entre tradition et modernité. Voilà, alors on est un peu dans la modernité, mais tout en respectant les traditions. Donc, le pari est. T'es en train d'être gagné, je trouve, quoi.
Premier extrait musical. Allons-y. Je vous laisse le soin de l'annoncer, Michael.
Bon, on va retrouver les Tiamat Diallèse avec le ciel de votre plus belle région. Merci. Qui est aussi l'une des plus belles de Corse, Uccello di Malagna.
la lontana brucia la mia memoria ad un'aria vagabonda e gabine di nade mi so palazzo giallo
dammi a rincore un gelo di guadagna dammi a rincore un gelo di guadagna
regino maestoso di rabbia chi ne scappa sarei vicino cerché lo chiuere cale i miei rocchi si credi so di via di montagna
tanto mi rincore un cielo di guadagna tanto mi rincore un cielo di guadagna.
Ugelou Diwalania et Tiama Dialèze à l'instant sur RCFM. C'était le premier choix musical d'Emmanuel Léopold. Il est notre invité jusqu'à 18h dans cette émission. Toc toc, vous y retournez souvent en Balagne?
Pas assez, diront certaines personnes qui sont sûrement de
vos
en
parents
train d'écouter. Oui, voilà. J'y retourne dès que possible. Oui, on y va la semaine prochaine, par exemple.
Tous les 15 jours, vous y allez
non,
en moyenne?
Non, avec les enfants qui ont de plus en plus de devoirs et tout ça. Non, ça un peu, voilà, j'espère un peu plus. Mais en tout cas, la moitié de chaque vacances est consacrée à la Balagne.
Quel moyen
sûr.
De transport utilisez-vous pour monter en Balagne?
L'âne, bien sûr. En fait, dans les clichés ou mon véhicule. Là.
Voilà, vous voyez venir ma question, Emmanuel.
Absolument pas.
Absolument pas.
Non.
Il y a un moyen.
On ne va pas parler de toutes les névroses que vous
mais
partagez.
Non, vous n'en avez pas beaucoup. Hein, vous n'en avez pas beaucoup. Hein. L'avion, c'est un problème.
L'avion,
pour vous.
L'avion, c'est un problème pour moi. Ouais, l'avion, c'est un problème pour moi. Ça me prive de plein de choses, de plein de déplacements, de plein de longs voyages que j'ai refusés. Bon, je fais les courts, voilà, les courts trajets. Je prends sur moi. Ouais, c'est compliqué. C'est dommage. C'est un handicap, je trouve, quand on est insulaire. Hein. Mais vous savez de quoi je parle.
Absolument pas. Mais absolument pas.
Oui. En tout cas, non, c'est non, assez... il faut prendre sur soi. Après, voilà, il faut se raisonner. Mais ouais, je suis pas à l'aise. Voilà, j'y vais, mais je suis pas à l'aise. Ça, c'est sûr.
Et cette peur est venue d'un coup ou non? C'est un
non.
truc que vous traînez depuis toujours.
Ça, c'est grâce à ma maman, qui déteste l'avion, mais cordialement depuis des années, qui m'avait accompagnée parce que devais subir une opération à Marseille. Pas grave. Et donc, au lieu d'atterrir à Ajaccio, à Bastia, pardon, nous atterrissons à Ajaccio après 4 tentatives, une
quelle
tempête
horreur,
pas possible.
Quelle horreur, horrible.
Ouais, ouais. Non, mais l'instant catastrophe, donc ma mère, faut savoir qu'elle va me détester, mais tant pis. Elle ne cligne plus des yeux lorsqu'elle est dans un avion. Elle ne cligne plus et elle ne bouge pas. Voilà. Elle est complètement immobile et les yeux secs, voilà. Et donc, c'est complètement communicatif. C'est une horreur, quoi. Voilà.
Donc vous avez vu la terreur un petit peu.
J'ai vu la terreur. C'est ça exactement. Alors j'essaye de voilà. Non, par contre, là où je suis assez fière de moi, c'est que je ne l'ai pas communiqué à mes enfants qui ont déjà fait des.
Pour l'instant.
Non mais quand ils vont loin,
ça
ils vont avec leur
coup,
père.
Chez eux,
non,
voilà.
Mais pas du tout. Non, ils se moquent de moi. Non, du coup, je rigole quand je rigole de ma propre peur, quoi. Mais en tout cas, vous aussi, vous rigolez de ma peur, hein.
Mais c'est très drôle.
On va se faire un vol. Moi. Evelyne Fontaine, en balance.
Qu'on embrasse.
On l'embrasse.
Evelyne, j'espère qu'elle nous écoute. Et on se fait un voyage avec Evelyne.
Ouais.
Moi, je me mets au milieu.
Ouais.
Tranquille.
Comme d'hab.
Spécial Michel Fugain, un autre banana.
Spécial pour vous. Je vous propose, Emmanuel, de retrouver tout de suite Michael,
oui.
Andréagne.
pour cette chronique. C'est son année.
Toc toc, c'est son année.
Alors habituellement, on propose plusieurs sonores, 1, 2, 3, 4, 5 pour
mais
là.
Comme c'était Manu en Afrique. Hein.
Un seul, on s'est dit on va
ça
avoir
suffisait.
De quoi dire, il n'y aura
on
pas besoin
pas
de
trop le temps de préparer.
Donc,
comme
alors,
c'est gentil.
On a décidé de faire une petite transition. Alors d'abord, le choix de l'année, donc 96, c'est vos débuts à Viasté, là, au Médiorn, je crois d'ailleurs.
Tout à fait, ouais, ouais. Début magique, voilà. Je sais jamais trop quoi dire parce que c'était tellement une époque formidable. Il y avait pas de programme à France 3, enfin oui, France 3 Corse à l'époque. Et puis tout était en train de se faire et tout le monde, on se portait les uns les autres. Je pense notamment à Pascal Bourrez qui m'a accueilli sous son aile comme une mame. Daniel bien sûr, Laurent Vital, Xavier Pierre-Lovis, voilà. Bon encore que Daniel et Xavier avaient une expérience de journaliste ailleurs, mais
vous commencez en même temps que Laurent Vital, hein.
Je crois que Laurent quasiment commence en janvier avec tout le monde et moi j'arrive en septembre.
Voilà. Ah, non.
Voilà, quelques mois d'intervalle,
ouais,
en tout cas la même année.
Laurent,
voilà.
ouais. Laurent est un peu plus calé que moi sur la question. Ouais, c'est ça, un enfant de plus.
Donc 96, c'était pour rester un peu dans la transition avec Agristil, l'agriculture, avec un fait d'actualité majeur qui avait secoué l'Europe et pas seulement. 96 qui rimait avec la crise de la vache folle, souvenez-vous. Le gouvernement britannique qui révélait le 20 mars de cette année-là qu'un lien pourrait exister entre l'encéphalopathie spongiforme bovine et certains cas de maladies humaines de Creutzfeldt-Jakob. Alors que Bruxelles demandait l'embargo sur les importations de bœuf britannique, France 2 faisait le point 6 jours plus tard sur les origines de la maladie. Extrait du 20h de l'époque.
Si les vaches n'avaient jamais mangé de viande, elles n'auraient jamais attrapé la maladie de la vache folle. Le geste en cause, avoir donné à ces traditionnels herbivores un aliment contre nature, des FVO, traduction des farines, viande, os. Dans ces aliments, on met des rebuts d'abattoir, mais aussi des animaux d'écarissage, ceux trouvés morts dans les prés par exemple. Parmi ces carcasses, certains moutons atteints de la maladie de la tremblante, le germe a ainsi franchi la barrière de l'espèce. 1981, les fabricants d'aliments britanniques mettent sur le marché de nouvelles farines de viande non chauffées. 1987, 6 ans plus tard, on découvre la maladie. 6 ans, le temps d'incubation. Les Anglais, suivis de peu par les Français, interdisent alors ces farines animales pour les vaches et les moutons. On donne désormais ces aliments seulement aux porcs et aux poulets, à l'abri, en principe, de la maladie. Ainsi, depuis 88 en Grande-Bretagne et 89 en France, aucun bovin n'est plus nourri aux farines animales et ne peut donc être contaminé. Mais tous ceux qui en ont consommé avant 89 révèlent la maladie quelques années plus tard. Ceci explique que les bêtes de boucherie, jeunes, soient hors de danger.
Les seuls cas qui sont déclarés actuellement le sont sur des animaux qui sont âgés de plus de 8 ans et qui ont pu consommer ces farines de viande avant leur interdiction.
Avant 89, donc.
Avant 89.
On arrive donc en bout de cycle. Il n'y aura bientôt plus de vaches folles, puisqu'il n'y aura plus de vaches assez vieilles pour avoir mangé de la viande.
Voilà, donc cet extrait du 20h. J'avoue que c'est très joyeux, ça a égayé l'atmosphère sur le plateau et même en régie technique.
Emmanuel vous a inspiré la vache folle.
Ouais.
Donc.
Non.
Je sais pas comment je vais le prendre, Michael.
Non. C'était juste un petit parallèle. Agriculture,
moi,
année.
J'ai une petite question. Quel est votre rapport à l'actu, Emmanuel?
Est-ce c'est que une vous êtes fesse,
ah non, pas du tout. Est-ce que voilà, vous êtes regardé, vous êtes hyper connecté ou non?
Non, parce
peu de recul,
que
pas de côté.
Ben, c'est-à-dire que sinon, on vit plus, quoi. Enfin, c'est-à-dire que c'est très inquiétant tout ça, tout ce qui se passe. Alors moi, me mettre H24 sur les chaînes d'infos en continu, je trouve ça voilà. J'essaye de choper l'essentiel, voilà, de bien sûr journal d'RCFM, évidemment, ratable. Non, mais voilà, il faut faire le tri parce qu'on est tellement inondé de toutes parts de malheurs, de enfin, ça peut paraître un peu égocentre, enfin un peu autocentré ce que je dis, mais il faut aussi un peu se préserver de. Je suis pleine d'empathie, vous le savez, hein, lorsqu'il y a des
donc attentats. Donc ça vous touche trop.
Oui, ça peut trop me toucher. Ouais, c'est ça en fait. Ouais, j'essaie de me protéger un petit peu. Ouais, exactement.
Vous souhaitiez rajouter quelque chose, peut-être?
Pas du tout.
Non, pas du tout.
Non,
pas.
Écoutez,
mais je pense en tout cas qu'il y a un petit son qui va pas tarder à débarquer, et qui va être bien sympa là.
Ah, vous voyez un petit bonus.
À moi qui ne veux pas le lancer, hein, il ose pas, le petit cochon.
Il sait trop.
Ah non,
ça pas. Va. Pardon, en fait c'était un petit son de cheval. Donc, c'était
un petit son de cheval.
Parallèle, donc lasagne à chipamentier, vache folle.
Oh,
bref, voilà. Le voilà.
On n'avait pas de vache, mais nous avons un cheval. Merci Simon.
J'ai passé ma journée entre des vaches et des chevaux aujourd'hui.
Voilà, justement, vous étiez en tournage. Hier et aujourd'hui, où étiez-vous ?
Hier, j'étais à Zevaco. J'étais à Zevaco.
Oui.
Au milieu des cochons, évidemment. Simon, bien sûr.
Ce sont des beaux spécimens, c'est après moi.
Une jeune femme qui, voilà, une jeune maman d'un bébé de 4 mois, voilà, qui prend la suite, enfin, en tout cas, qui s'installe aux côtés de ses parents. Noélie Andréouch. Et aujourd'hui, nous étions à Tizano, chez Emmanuel Louquigne et Stéphanie Casalt, ferme équestre, viande de bovin, qui ne mange pas de saleté, puisque...
Tant mieux.
Ouais, non. Non, il y a encore des gens qui font des choses dans les règles de l'art, quoi. Non, vraiment encore de belles rencontres. Voilà.
Encore belles rencontres, pas du tout. Ouais. Alors, sans aucune transition, des cochons, nous passons à David Bowie, avec ce titre, Let's Die. Fan de David Bowie.
Ouais, quand même. Ouais,
j'ai fait chanter l'aigu là dans la voix.
Ouais, j'aime bien.
La voix qui part dans les aigus. Let's Dance. Donc c'était la période. Là, c'est sa période disco, non? C'est pop.
Je sais pas, on s'en fout des cadres.
Les cadres. Ouais. Vous êtes sans cadre.
S'en fout des cases. Ouais, on aime, on n'aime pas, on s'en fiche.
Vous aimez?
Ouais, moi ça.
Vous aimez vous, ouais. Mika?
Ah oui, j'adore.
Ouais, Let's Dance. On adore tous David Bowie. Merci à vous d'avoir choisi RCFM. Vous écoutez Toc Toc et notre invité ce soir est Emmanuel Léopold.
The song they're playing on
David Bowie et Let's Dance. À bientôt, 17h43 sur RCFM. Vous écoutez toujours Toc Toc avec David Bourgeois, notre invité, Emmanuel Léopold.
Sous les feux des projecteurs, Emmanuel Léopold, donc productrice artistique pour France 3 Corse depuis 1996. Ça vieillit un petit peu le truc. Nous sommes ensemble et en direct jusqu'à 18h. Alors, on en a appris pas mal hein, sur vous quand même. Voilà, côté lumineux, côté obscur. Donc, vous êtes du signe du taureau, puisque vous êtes né un 25 avril. Donc, aujourd'hui, c'est votre anniversaire. On vous l'a déjà souhaité. Donc, oui, après, ça fait un peu lourd. Quels sont les principaux traits de votre caractère?
Alors, comment dire? Je sais pas. Je suis quand même la plus mauvaise personne. Enfin, je suis
vraiment
mal placée.
Mais comment vous percevez?
Ah, je suis une fille sympa, je trouve. Non?
Ouais. Vous? Ça dépend des jours.
Non, comme tout le monde, j'ai envie de te dire. Non, je sais pas. Je suis un peu têtue. J'ai un chat dans la gorge. Je suis un peu têtue. Je suis entière. Voilà. Alors, ça peut me jouer des tours. Ouais, ça, parce qu'il y a du bon et du mauvais quand on est un peu entier. Pas possessive, mais voilà.
Prêtez pas vos affaires.
Alors si, j'ai les prêtées souvent. Puis si un jour je vois que tu t'en occupes pas bien, je vais plus jamais rien te prêter. Tu vois ce que je veux dire? Vous voyez, pardon.
Timidité chez vous?
Ouais, quelque part, oui, malgré le fait de passer à l'antenne. Bon, c'est pas ce que j'affectionne le plus, hein, c'est vrai, hein, passer à l'antenne. Ça a des côtés sympas parce qu'il y a des petites montées d'adrénaline qui sont agréables parfois. Pas toujours, hein, mais qui le sont parfois. Là, aujourd'hui, par exemple, même si on voit pas ma tête, j'ai un peu le stress quand même. Mais non, puis j'aime pas parler de moi, quoi. Là, ça, c'est la question horrible que vous venez de me poser, David. Vous parlez de moi, je sais pas. On n'est jamais très objectif envers soi-même, je pense.
Arrête, on monte à zègue.
Simon, merci.
Non, je suis une fille formidable. Voilà, non, j'en sais rien.
formidable.
J'espère être une maman formidable. Voilà, après le reste, les gens, on peut pas plaire à tout le monde. Hein. C'est même le titre d'une émission déjà prise. Mais ouais, voilà, après, je m'en fous. Enfin, j'ai envie de dire que je suis comme je suis et qui même me suivent, quoi.
Ouais, empathique, surtout, comme on
C'est vrai, empathique.
Empathique. Et c'est vrai que du coup, on peut avoir un peu cette barrière de protection quand on est trop sensible, quand on est timide, quand on est empathique.
Ouais, je peux absorber
et
très
ça peut,
vite.
Et ça peut paraître comme de la distance, souvent, lorsqu'on est trop sensible. C'est vrai,
Ouais, quand on se protège trop, mais oui, on s'isole, hein, parfois. Je pense pas être dans l'isolement quand même. Hein. Oui, des fois je vous évite un peu dans les couloirs. C'est vrai. Si fait en temps de canicule.
Voilà, j'allais venir.
Ouais.
Vous êtes météo sensible.
Moins que vous.
Cette émission vous est consacrée.
Est-ce qu'on pourrait changer les rôles? Parce que j'ai deux, trois questions à vous poser.
Météo sensible, non,
je supporte pas la chaleur. Voilà, j'ai un problème avec la chaleur.
Mais comment ça se fait, ce problème avec la chaleur? Ça vient de vous?
Je sais pas. Aucune idée. Puis alors, je sais pas.
Parce que vous êtes quand même jeune.
Ouais, en bonne santé. Je suis brune, le teint mat. Je devrais bien supporter.
Mais pas du tout.
Je supporte pas bien la chaleur. Je sais pas. Est-ce qu'on doit avoir une explication pour tout, j'en sais rien.
Du coup, la canicule, c'est quand même quelque chose de pas agréable.
L'été, c'est comme l'avion.
C'est pas super agréable.
Une phobie.
La phobie de la chaleur. Alors, prendre l'avion quand il fait chaud, j'en parle même pas.
Au moins, il y a la clim. Attends, au moins, il y a la clim. Non, j'aime pas la chaleur. Bon, j'aime pas les extrêmes, on dirait. J'aime le froid, par contre. J'aime le ski, beaucoup.
Vous skiez beaucoup.
Je skie pas beaucoup, mais je skie dès que je peux. Et oui, j'aime beaucoup. Ouais, ça me plaît. Ça me plaît.
Vous, la canicule, le froid, ça va, le ski, ça va.
Je supporte, même si j'avoue aimer plutôt les destinations nordiques. Bon, j'ai la chance de pouvoir prendre l'avion de mon côté, donc je peux y aller.
Mais nous aussi, on va y aller, Mika.
Alors là, nous rebasculons, on va faire un toc-toc spécial Mika, en fait, parce que du coup,
on fait tout
chez Manu. Donc là, on bascule du côté. Alors en plus, Mika, moi je l'adore parce que Mika est super zen. Non, mais c'est vraiment hyper équilibré, aucune phobie connue. Mais c'est vrai, vous prenez l'avion comme...
Enfin, équilibré, sauf du point de vue de l'alimentation, je vous le conseille. Hein. Oui, il faudrait faire des efforts là-dessus. Hein.
Mais c'est vrai, vous êtes hyper détendu.
Je vais vous laisser, j'ai un truc à faire.
Merci alors, Manu, d'être venu.
Vous avez poney.
On va écouter le choix musical de Mika maintenant, donc une chanson irlandaise.
Presque.
Alors, autre choix musical, vous allez nous présenter cette chanson, un magnifique duo, Craig David et Sting, Manu.
Ah, je vais vous la présenter?
Ouais.
C'est-à-dire?
Depuis quand vous l'aimez?
Qu'elle est sortie. Je suis grande fan de Sting. J'avais du mal à choisir un morceau de Sting tout seul. Donc j'ai choisi cette voix un peu suave de Craig Davis.
Est-ce que vous êtes comme Proust et les musiques, les odeurs, est-ce que ça vous renvoie?
Oui, il y a des choses qui me renvoient.
Est-ce que ça
très,
vous renvoie
loin.
Des
oui.
souvenirs?
Oui.
Et ça vous renvoie à quoi?
Je ne peux pas tout dire.
On écoute et nous en parlons juste après. Merci à vous d'écouter RCFM. Craig David et Sting, c'est un duo choisi par Emmanuel Léopold. Sometimes in life you feel the fight is over, and it seems as though the writing's on the wall. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. Sometimes in life you feel the fight is over. Seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I always said that I was gonna make it, now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest, my life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status, that's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning lose my integrity. Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the writing's on the wall. Yeah. Superstar, you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call the rise and fall. I never used to be a troublemaker, now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong, the types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places, and there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned from all those times I didn't walk away when I knew that it was best to go. Is it too late to show you the shape of my sometimes heart? Sometimes in life you feel the fight is over, over. And it seems as though the ride is on. The riding's on. So sorry you finally made it. I don't care, but you don't realize what this means to me. So let me have just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be. Sometimes the fight you feel, the fight is over. No.
what they call the rise and fall.
Vous écoutez Toc Toc et nous sommes toujours en direct avec pardon, Michael Andréagne et notre invité ce soir est Emmanuel Léopold. Cessez de rire bêtement, s'il vous plaît. Vous avez chaud, Manu.
Un peu, hein, ouais.
Vous, un peu vous déshabiller.
Ah bon, non, mes bijoux pour pas faire de bruit sur la table.
Alors, hein, tout à l'heure.
Sinon, on me remerciera, je pense.
Tout à l'heure, avec Mika, nous évoquions un petit peu votre personnalité, votre tempérament. Et en off, vous nous confiez que vous étiez border control.
Alors, personne dit de moi que je suis border control et je trouve que l'expression est assez jolie.
Ouais, ça veut dire quoi, border control?
Border, en fait, quand on dit je suis border, c'est que voilà, on est plus près de basculer, qu'un peu limite. Et puis, contrôle, tac, tac. Il y a le contrôle qui.
Ah, expliquez-nous, développez-nous.
Non, je sais pas. Je pense que border, c'est intrinsèquement, ça fait partie de moi d'être un peu border. Et puis le contrôle, c'est mon éducation qui chaque fois m'a remise un peu, me remet, bon alors dans plein de domaines, hein, des plus futiles aux plus importants, je dirais. Mais ouais, je trouve que ça me résume assez bien. J'aime bien cette expression border control, ça me plaît.
Et du coup, ça me permet de rebondir. Alors même si votre enfance fut enjouée, joyeuse, remplie d'amour, est-ce que
aujourd'hui
non, pas du tout. Est-ce que ce ne fut pas une enfance, une éducation un peu stricte?
Ou
pas du tout, je sais pas. Hein,
c'est, oui, un peu stricte, mais merci quoi. Aujourd'hui, il y a plusieurs années maintenant que je dis que merci. Non, mais c'est vrai, trop permissif. Ben de toute façon, c'est pas bien quoi. En tout cas, à mon avis.
Voilà, des parents que vous respectiez, un petit peu sévères
Oui, surtout mon père, un petit peu plus sévère que ma mère. C'est bien, il y avait un équilibre entre les deux, quoi. Bon, un papa très absent, parce qu'il travaillait beaucoup, médecin en Balagne, avec un territoire de folie, pas de portable. Enfin, bon, vous connaissez la chanson. Enfin, non, vous n'étiez pas né. je pense qu'il faut, alors pour le coup, tout à l'heure, je disais, on met pas dans les cases, mais oui, je pense qu'il y a un moment où il faut quand même un cadre éducatif et je pense que j'ai eu le bon.
Alors, les prénoms de vos parents, alors il y a Claudie.
Oui, il y a Claudie
et Jean-Paul. Bon, on les embrasse, hein.
On les embrasse.
Ils nous écoutent, vous pensez?
Ouais, sûrement, oui. Oui, allez, oui. Oui, il nous écoute parce que ma mère m'a envoyé un message, je vais te tuer. Donc je ne sais pas trop à quel
Salut
moment.
Salut Claudie. C'est vrai que je connais pas moi Claudie et Jean-Paul. Hein.
Ah ben, un petit tour en Balagne cet été.
C'est vrai. Je viendrai. Philippe, votre frère. Donc voilà, on sait tout, hein, Mika. Est-ce qu'il y a une dernière question? Allez-y, ne vous gênez pas, Mika. Allez-y.
Peut-être sur les projets à venir d'Emmanuel.
Alors, parallèlement au dernier numéro de la saison d'Agristé. Là, je suis en train de... On est presque sur la fin du tournage d'un portrait de Christophe Santini, qui est un sportif de haut niveau. Enfin, c'est une bête, quoi. Enfin, je sais pas comment le définir. Là, il est en Namibie. Il participe à un challenge de 5 déserts à traverser avec 6 semaines de récup entre chaque désert. Ça s'appelle Racing the Planet. Vous apprécierez mon accent.
Et vous allez partir?
Non, je pars pas.
Je pars pas. C'est pas possible.
Non, je pars pas, mais on a filmé, on l'a suivi 2 journées sur son entraînement, pendant sa période de récup. Et c'est un garçon formidable qui court, mais pas seulement pour lui, il court aussi pour des causes.
Bonnes causes.
Ouais, et puis c'est quelqu'un qui, voilà, pour le reboisement aussi. Enfin, bon, il y a tout un, mais vous verrez ça lorsque nous diffuserons notre 26 minutes sur
on
Christophe
Santini. On le verra quand cette année?
Ouais. On le verra avant la fin juin, ouais.
Ah,
avant la
fin. Oui,
donc,
demain, oui.
Donc là, il est en Namibie et quand même, il est tellement formidable que ce matin, il m'a quand même envoyé un petit message pour me souhaiter un joyeux anniversaire. C'est beau,
oh,
pas
comme c'est gentil.
Non, c'est vraiment un garçon et une famille formidable, voilà.
Super, merci Emmanuel Léopold d'avoir répondu à toutes nos questions.
Ouais, presque. Hein, il y en a qui sont éludées, mais c'est bien.
Ah ouais, vous avez quand même passé. Il y a des questions qui sont un peu gênées. Si on fait l'autopsie de cette interview.
Autopsie de l'interview. Oui. Je vous l'ai dit, là, qu'elle m'avait gênée le plus. Mais c'était quoi mon trait de caractère? Comment je me définis? Je sais pas, je pense qu'on peut pas se définir de façon objective.
Vous pensez ? Ouais. Oh non, je pense pas.
Je ferai une interview de vous, dans laquelle je vous demanderai...
Dans la tristée, là, voilà, vous me filmerez dans mon jardin.
Dans votre jardin, en train d'arroser.
Je vous demanderai comment
je suis. Voilà, on fera à l'inverse.
Très
moi
bien.
Qui ferai une prochaine interview.
C'est très difficile, mais c'est vrai, c'est très difficile de répondre à une interview, surtout quand on a un petit peu du métier, quand même, comme vous, depuis 1996.
Non, c'est pas ça, le truc, arrête. Depuis 1996. Non, c'est pas ça le plus gênant, c'est que oui, c'est un peu... Je suis un peu timide, on l'a dit tout à l'heure.
Merci en tout cas Emmanuel d'être venu pour que la fête reste belle jusqu'au bout. Un vieux truc. Merci Simon de ressortir les trucs.
Les casseroles.
Quelle horreur. Pour que la fête reste belle. Je sais pas quoi je pensais là encore.
C'est tout ce que ça lui a inspiré notre heure là.
C'est un peu déçu, Simon. Mon inconscient parlait. Je vais remercier Mika Andréagne.
Merci.
Que j'adore.
Je suis fan de Mika.
À très vite, Mika. Et en se quittant en musique, si on a le temps, quelques petites notes de cette musique, de cette mauvaise musique italienne qu'a choisi Emmanuel. La soupe d'Italie.
C'est
Biagio Antonacci et c'est le choix de Manu.
Volte guardo il mare, questo eterno movimento, ma due occhi sono pochi per questo immenso, e capisco di essere solo.